Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Salut à tous, c'est le meilleur du Super Moscato Show, comme tous les après-midi de 15h à 18h sur RMC pendant tout l'été. Et oui, on ne vous quitte jamais sur RMC.
Salut Pierrot, ça va? Tu m'as l'air en pleine forme, dernier jour de juillet.
Il fait beau, on est en vacances, déjà, on est champion du monde, tout va bien.
Ça passe vite quand même. Déjà le 31 juillet, bon courage, parce que là c'est la période de l'année où vous êtes le plus nombreux à nous écouter en voiture. Le fameux chassé-croisé. Donc bon courage et vous allez passer un bon moment, au moins... On peut leur garantir, Pierrot, vous allez rire quand même. Alors, on va avoir du bon Vincent.
Il y aura aussi, des personnages que vous appréciez dans cette émission, notamment Jacques Monclar. On va démarrer avec lui. Il sera là dans une minute, Jacques. Je pense qu'il nous écoute en vacances, Jacques, par exemple.
Ah oui, Jacques, mais il est souvent dans le sud, du côté de Agde.
Supporter sénégalais et marocain, écoutez-nous. On va vous rediffuser un débat qui a enflammé le monde du foot au mois de mars. Le Maroc est-il champion d'Afrique? Puisque c'est un champion sur tapis vert. C'est un débat complètement dingue, ce sera à 17h. Avant cela, les Blonds ont raté le Grand Chelem, oui, et Vincent a réglé le problème, donc tout va bien.
Le Grand Chelem est perdu, ça c'est sûr.
Ça c'est à 16h. Et puis on parlera de Toulouse, on parlera bowling aussi aujourd'hui, on parlera patinage artistique, incroyable. Et puis bien sûr, journaux moyens, première et deuxième édition.
Alors à 15h45, un journal moyen qu'on aurait aimé ne jamais vous proposer. Nous avions rendu hommage ce jour-là, rappelle-toi, Pierrot, à Roland Courbis. Roland Courbis qui nous a quittés, à qui on pense, qui était un fidèle auditeur du Super Moscato Show, qui nous envoyait à l'époque des dizaines de textos pendant les émissions pour nous dire voilà, tactique, l'OM, il faut dire ça. Il était passionné, le coach. On va lui rendre hommage à 15h45 et puis 16h45, beaucoup plus léger, la deuxième édition du journal moyen. Un petit focus voice sur Vincent. Un jour, on a enregistré juste la voix de Vincent, ça tombe comme ça, c'est gratuit. Et j'avais débriefé l'intervention de Michel Platini dans l'after, avec quelques dérapages de Michel, nouveauté chez Michel Platini.
Et puis, je vous promets un petit cadeau. Une petite surprise en plus qui tombera complètement gratuitement. Voilà.
Quelqu'un qui n'est plus sélectionneur?
Pour les nostalgiques.
Quelqu'un qui n'est plus sélectionneur? C'est pas bon de l'occuper.
Alors, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite parce que pour l'instant, on parle de notre champion Victor Wembanyama. On s'est posé la question très tôt dans la saison. Peut-il emmener les Spurs au titre dès le mois de février?
Oui, Wembanyama, il va falloir qu'il gagne.
Wemby just caught it in midair.
Merci d'être là avec nous à 8h40 du matin.
Ouais, c'est un grand moment pour moi.
Le cuir est différent en Europe, c'est plus facile de.
Je sens bien sûr une énergie différente.
Il y a eu aussi.
J'attends de voir encore comment ce sera les jours de match.
Le ball Kaylee, he didn't play one minute during the
match.
You know, once in a lifetime experience.
I'm grateful for last night.
Bah, je le devine.
Il dunk au basket.
Et en termes de performance pure, c'est un top 5.
Ah, il fait des Tolisso. Allez, vas-y, tu peux passer à autre chose.
Comment tu t'es mis à l'adaptation? Pardon.
Je pense pas que ce soit du tout mon étiquette.
Il y a une addiction à l'odeur.
Bien sûr que ça l'est.
T'aimes la tatane, Jason?
Absolument.
T'aimes la tatane, Jason?
Ouais, bien sûr.
Qui t'a casté? C'est Bruno Berberes qui t'a casté aussi.
Rien qui s'en rapproche.
Jason, t'aimes la tatane?
Non, mais c'est bon.
Moscato, il va te le régler le problème.
Bruno Berberes, c'est quand même Jason qui aime la tatane. C'est bon.
Qu'est-ce qu'il vient faire là au milieu?
Est-ce qu'il fallait que tu sois présent dans la prod?
Ah bah oui, oui.
Alors, à quoi on reconnaît une mégastar, un joueur hors norme? Bah, c'est un joueur qui fait qu'il y a des débats basket à 16h l'après-midi sur une chaîne nationale de radio. Ouais, voilà. Mector Wembanyama.
Vous en avez fait beaucoup.
C'est pas le dernier débat. Ouais.
Tipeee, Wemby, voilà, c'est des joueurs hors normes, comme Teddy Riner, comme Maradona, comme Vincent Moscato à l'époque. Les Spurs, donc, n'en finissent plus de progresser dans le sillage de Wemby. Ils sont deuxièmes de la conférence Ouest et commencent à se poser en sérieux prétendant au titre. Ils n'étaient pas attendus à ce niveau-là en début de saison. Ils restent, c'est vrai, des équipes très très fortes sur le papier, à commencer par le tenant du titre au KC. Mais on se pose la question, Wemby peut-il emmener les Spurs au titre dès cette saison? Vincent Moscato règle le problème. On va t'aider un petit peu.
Ouais, merci.
Déjà, tu peux t'appuyer sur Steve et nous accueillir.
Oh, je sais pas pourquoi je te sais un peu court des pattes de derrière, moi, mais je sais pas pourquoi.
Non, mais il peut parler sur le ressenti.
Ça, je dirais.
C'est toujours intéressant.
Écoutez les infos d'Alex.
Nous accueillons le grand Jacques. Jacques Monclar.
Non! Jacques. Ça, c'est la bonne nouvelle. La canaille. Comment il va, Jacques?
Bonjour, les amis. Bonjour,
comment il va, Jacques?
Salut,
Jacques.
Ouais, je vous embrasse.
Et Alex Biggerstaff pour nous présenter la progression de cette équipe. Salut, Alex. Salut l'équipe.
Oui, Alex. Très bien,
Vincent. Bon.
Est-ce qu'on peut parler de progression fulgurante des Spurs?
Fulgurante et bien plus rapide que prévu, parce que les Spurs auront bientôt joué les trois quarts de la saison régulière NBA et affichent un bilan de 41 victoires en 57 matchs, synonyme de deuxième place dans la très relevée conférence Ouest derrière le champion en titre, Oklahoma City. Pour rappel, San Antonio, lors du dernier exercice, a terminé 13e sur 15 de sa conférence, alors que Wemby, le 20 février 2025, devait mettre un terme à sa saison à cause d'une thrombose veineuse détectée dans l'épaule. Un an plus tard, San Antonio a le troisième meilleur bilan de toute la NBA. Encore mieux, les Texans ont remporté 14 victoires en 21 matchs contre les franchises les mieux classées de la Ligue, à savoir celles qui ont au moins 60% de victoires en NBA cette saison. San Antonio gagne les gros matchs. San Antonio l'a encore prouvé la nuit dernière en s'imposant à Détroit, leader de la conférence Est. Victor Wembanyama, lui, a terminé le match avec 21 points, 17 rebonds, 6 contres en 36 minutes. C'est un 9e succès consécutif pour San Antonio. Meilleure série en cours du championnat américain. Alors forcément, la question revient souvent. Les Spurs visent-ils déjà le titre? Wemby a répondu il y a quelques jours à notre confrère de Beansport, Rémi Réverchon.
Est-ce qu'honnêtement, vous jouez les Spurs, vous jouez le titre cette année?
Bah, bien sûr.
Et c'est réaliste dans tes yeux?
Ouais, bien sûr.
Cette année?
Bien sûr. Bah, il me semble que quand on regarde dans les 10 ou 15 dernières années, tous les champions, ils étaient quasi toujours premier, deuxième, troisième de saison régulière. Donc, bien sûr que c'est possible.
Et si vous n'êtes pas encore convaincu, hein, Vincent, oui. San Antonio a déjà battu cette saison Oklahoma City, le champion en titre, 4 fois en 5 affrontements. Malgré un temps de jeu réduit pour être productif le plus longtemps possible dans ce marathon, Wemby est toujours aussi efficace et compile en moyenne 24 points, 11 rebonds, 3 passes et 3 contres depuis le début de la saison. L'arbre qui cache la forêt, parce que les Spurs, c'est un collectif. 7 coéquipiers du français compilent chacun plus de 10 points en moyenne par match. Les Spurs n'ont plus disputé les playoffs depuis 7 ans et leur dernière finale NBA date de 2014, le dernier titre avec un certain Tony Parker.
Alors avant d'écouter les analyses de Stephen et de Jacques, ton ressenti Vincent? Voilà, tu regardes pas tous les matchs des Spurs, c'est la nuit, mais quand même, quelle est ton impression?
J'ai quand même l'impression que ce mec, c'est l'élément moteur, quoi. C'est comme LeBron James quand il était plein badin, il était à Miami, il gagne, il s'en va, il regagne, je veux dire, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, mais lui, il est là, il est bien présent. Et non, mais c'est le contraire que je voulais dire. Mais lui, il est bien présent.
Il est obligé de commencer.
Bon, vous me laissez finir. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
Mais
lui, il est bien là.
Mais lui, il est bien là. Et donc, tu m'as dit, c'est l'arbre, c'est plutôt le bambou.
C'est l'arbre qui cache la forêt.
Ouais, c'est plutôt le bambou qui cache la lorine. Oui. Mais il y a d'autres joueurs, il y a un gros collectif, ils sont sur une phase ascendante, et ce mec est incroyable. On a rarement vu un phénomène comme ça. Donc pour moi, alors ça va être compliqué, mais en plus ils battent les tenants du titre 3-4 fois. Alors je sais bien qu'à la saison régulière, c'est Gigo Haricot, la saison régulière, ça c'est un peu, là vous vous moquez souvent des doublons au rugby, mais là c'est des quadruplons, le chauffeur du bus il peut jouer, il y a tout le monde qui joue là quand même. Il y a des matchs qui sont pas quand même, c'est des matchs amicaux, c'est les mariés contre
toujours.
Les
battent,
il y a une victoire qui est importante, il y en a eu le temps en temps, mais souvent c'est quand même le championnat de bisounours, les mariés contre les célibataires, c'est ce que je voulais dire. Maintenant pour c'est ça, je pense qu'il faut laisser la place à notre invité.
Ton ressenti, Eric.
Ah, écoute, franchement, il y a les victoires, laisse-moi, parce que moi j'ai regardé les matchs. Les victoires contre OKC, donc je demandais toujours un peu à Steve, et en effet, il y a eu certains matchs où il y avait quelques joueurs au repos, mais malgré tout, quand tu les bats plusieurs fois, ça veut dire que tu sais comment les battre. En tout cas, c'est la meilleure équipe de NBA. Tu les bats 4 fois, c'est pas anodin déjà. Sauf que, à un moment donné, il faut confirmer, et il faut même peut-être se frotter à ce qui se fait de mieux ailleurs. Et moi j'avoue que cette nuit, donc celui-là je l'ai regardé avec attention, parce que c'était d'un niveau physique
contre Détroit,
pour moi contre Détroit qui est la meilleure équipe de l'Est et qui est dans la baston. Les spécialistes me contrediront si je dis une bêtise, mais il me semble que ce que j'ai vu hier dans la baston, c'est sûrement ce qui se fait de mieux, et contre ces équipes là il faut pouvoir exister. Et moi ce qui m'impressionne chez les Spurs, alors d'abord c'est qu'il n'y a pas que Wemby qui est fort. stats, tu vois Vassel, Kassel, tout ça, là, tous les stats de ces Chabani, les stats et ce que font ces mecs-là, notamment à 3 points, depuis le début de la saison, tu te rends compte qu'il est plus tout seul maintenant, Wemby. Et hier, quand tu vois, mais c'est, alors, hier, c'est significatif parce que souvent dans les autres matchs, tu sais, dans le dernier carton, quand tu décides de mettre les barbelés, c'est là que tu vois, quand défensivement, les mecs sont très forts. Et tu vois que les Spurs, notamment Wemby, parce que défensivement, il sera pas loin d'être le meilleur défenseur de la, ouais, de la, de la NBA cette année. Il le sera, voilà. Il est impressionnant quand il décide que de d'aller prendre tous les contres, tous les rebonds. Il est impressionnant. Et hier, il tombe sur des chiens morts en face. Et d'ailleurs, les mecs, ils le mettent sur le cul, hein. Il c'est impressionnant ce qu'il a, il a morflé hier soir. Il a pris des nions, hein. Et malgré tout, il sort avec un match énorme défensivement. Et avec une victoire qui, pour moi, est sûrement la plus significative dans la perspective d'aller plus loin au niveau des playoffs. Voilà, ce match-là, arrête pour moi, toi. C'est un avant-goût des playoffs. Et je laisse la parole aux spécialistes, mais moi, non, mais arrête, franchement, je pense qu'ils seront en finale de conférence. Et après, tout peut arriver.
C'est inadmissible. L'autre, il est là, il souffle, il dit non, pff, n'importe quoi, il rigole et tout, pendant que tu parles, Eric, quand même.
Non, mais s'il rigole, ben. Non, mais moi, je. Moi, ce sport d'élite.
On n'a pas le droit de passer, on n'a pas joué, alors si j'ai bien compris.
Ce sport d'élite, on va donner la parole aux spécialistes.
Eric, tu veux pas dire faire basket time parce que tu as une très belle analyse.
Là, c'était très bien. Ouais. C'est parce que voilà, tu dis. Eric Faye, en plus, je suis toi.
Non, mais moi, je suis pas une pop comme l'autre là, qui dit n'importe
alors,
quoi.
Steve, hein. Ton avis, on est avec Jacques Monclar aussi, je vous le rappelle. Écoute, je l'entends se marrer, Jacques.
Jacques, il rigole, bien sûr.
Écoute, mon avis, c'est que sur ta question moyenne, ça serait un authentique exploit parce que ça fait l'année 3 de la reconstruction. C'est deux années de suite qui font pas les playoffs. Ça veut dire que tu fais les playoffs pour la première fois avec Wembanyama et t'es direct champion NBA. Ça serait, je sais pas si ça a déjà été fait en NBA, ce genre de choses-là. Après, il faut se rendre compte aussi que quand arrivent les playoffs, c'est une autre compétition. C'est un autre basket. Il faut battre 4 fois la même équipe. Il faut aussi que le coach, qui est un jeune coach et qui n'a jamais coaché un match de playoff, prennent la mesure de ces matchs couperets. Il y a très peu d'expérience dans cette équipe des Spurs. Il y a Harrison Barnes qui a été champion NBA avec Golden State Warriors. Le petit meneur d'Aaron Fox, c'est que 7 matchs de playoff avec Sacramento. Sinon, les Vassell, les Castle, les Wemby et les Dylan Champagny, ils connaissent pas ce genre de match-là où c'est à la vie à la mort, où la défense devient plus importante que l'attaque. Mais il y a quand même, et tu l'as dit Vincent, ouais, Victor Wembanyama, change la donne à lui tout seul. Les Spurs font peur parce que
c'est
Victor Wembanyama. Mais c'est exactement ça.
Voilà.
C'est exactement ça.
Tu descends dans le hall de BFM, tu prends le premier qui arrive, il dit pareil, Wembanyama, c'est le gars, pas cher. Ah ouais, non, mais je suis entendu dans ma vie, moi.
Même avec les rétro de caravane, je te vois plus, Eric.
Et là où ça serait un authentique exploit, c'est que si tu compares aux plus grands de ce sport, et les plus grands, c'est Jordan et LeBron James. Jordan a attendu 7 ans pour être champion NBA, LeBron James a attendu 8 ans. Si Wemby est champion NBA au bout de sa 3e année, je pense qu'on est parti pour peut-être ce qui se fait de mieux dans le monde du basket.
The pas game changer.
Il est fou ce mec. Ouais, ok, Jacques Monclar, la question est la suivante. Wemby peut-il emmener les Spurs au titre dès cette saison?
D'abord, bravo Eric.
Moi, je suis rien. Donc, j'ai compris. Merci.
Alors, c'est toujours difficile de juger une équipe qui est jeune avec Dauto. Tu comprends rien, oui, ça c'est sûr. Alors ça, c'est toujours difficile de juger une équipe qui est jeune parce qu'elle peut progresser au fil de la compète. Et en termes de jeunes joueurs influents sur le jeu et game changer, Steph, Magic Johnson en 80. Enfin, bon, c'est un autre débat. Et quand il fait son truc de pivot. Victor peut tout changer et on sait pas les limites de Victor. Hier, le match, il est fondateur sur un truc. Le seul moyen qu'il y a de le limiter, c'est de lui rentrer dedans à mi-hauteur. C'est ce qu'ils font tous. Et hier, ils l'ont fait de manière violente. Ça avait été le cas un peu à Charlotte. C'est la manière, tu peux pas l'attraper en haut. Il est mobile. Donc, tu vas le choper à mi-hauteur. Et il fallait.
C'est-à-dire les alibofis. Clac. Voilà. Tu attrapes les roues.
Non, là, un peu plus haut. Au niveau de la hanche, au niveau du ventre, au niveau du dos. Et donc, ils sont tous ça à faire ça. C'est pour ça qu'un Dylan Brooks, un Draymond Green l'ont kikine plus que d'autres. Les petits gros, Vincent, t'aurais eu une chance, ont cette capacité. Et Victor, hier, pour la première fois, et ça, mon Vincent va bien comprendre, il a pris des coups.
Ben oui, ça fait.
Il les a pris. il l'a fermé, il est allé, et dans le quatrième carton, ils l'ont pas revu parce qu'il fait toujours 2m25, qu'il saute toujours plus haut que tout le monde, et qu'il a faim. Il a faim du ballon.
Et qu'il a le timing.
Et que oui, il aime ça. Il aime contrer. Et ce qu'il fait à la fin, il leur marche dessus. Enfin, alors après, l'équipe, elle s'est bien constituée. Sans lui, quand il était blessé, et des mecs comme Vassell, Harper, Cassel, que j'adore, les deux petits arrières, là, c'est quelque chose qui joue bien au basket. Alors, ce qu'il leur manquerait, deux choses, à mon avis. Les deux anciens, Harrison Barnes et Keldon Johnson, sont des vrais combattants, pas des guerriers un peu fous.
Un peu mou.
Et moi, je me disais, ils vont finir en début de saison 5-6,
ouais.
Et ils vont passer au moins un tour, et puis ça va être dur. Là, je me dis, fort comme ils sont, ouvert comme c'est à l'Ouest, parce que OKC est un peu sur l'alternative, Denver, un peu pareil, Minnesota, de temps en temps, il y a une coupure de courant. Donc bref, et à l'Est, c'est un peu pareil, même si Détroit apparaît dans la tradition bien violente de Détroit, comme le favori, même si Cleveland, New York, d'autres peuvent faire des trucs. Je me dis, ils peuvent aller, mais on le saura quand ils seront sur la grande scène. Quand, tu sais, il faut gagner 16 matchs pour être champion.
C'est long,
sur un potentiel de 28. Donc, la route est longue. Hein. C'est un quart de saison que tu peux faire. Donc,
tu vois, Jacques, c'est con que tu as arrêté de parler de basket, d'arrêter de bosser, que tu as pris ta retraite parce que tu n'es pas nul. Hein. Tu n'es pas nul, tu as encore un peu sous le pied quand même.
Steve, Jacques, parce que on se focalise sur Wemby. Mais comment vous expliquez la métamorphose des Cassel, des. Parce que l'an dernier, ils étaient.
Oui, mais Cassel était rookie, Eric. Il découvrait le monde de l'NBA. Dans la deuxième année.
Oui, mais justement, les progrès qu'ils ont fait ces deux-là, là, par rapport à l'an dernier, Wemby, on le voyait venir, mais eux, là.
Après, Stephen Cassel, c'est un haut choix de draft, donc les Spurs, quand ils draftent, ils savent qu'il a un talent hors norme aussi.
Dylan Harper, le fils de Ron Harper.
Exactement.
Et lui, il le rappelle à tous, Ginobili, en plus. En termes de basket léché, en ce moment, ils sont number one.
Alors, écoute.
En termes de tout ça, et puis Victor, quand même, on va pas en rajouter, mais quand même.
La preuve que vous êtes mauvaise langue avec Vincent, c'est que ce débat qui passionne nos auditrices et nos auditeurs suscite des questions à Vincent Moscato. Oui. Alors, j'en reçois une de Jason Tatan. Son pseudo sur Twitter. Oui. Vincent, t'en penses quoi du positionnement post-up après pick and roll de Wemby?
De Wemby?
Oui.
C'est là où il se transforme en game changer.
Jacques, on va intéresser Vincent. On va parler d'oseille parce que Victor, à partir du 6 juillet, il est éligible à un nouveau contrat qui sera à minima de 252 millions de dollars sur 5 ans. Peut-être tu plus s'il a des distinctions.
Pas. Parce que je pensais qu'il allait prendre 400.
Oui, mais tu peux pas parce que c'est 30% du salarié cap. C'est limité, Vincent.
Ben c'est vrai, je vais te dire, c'est un gilet jaune pour moi. Voilà.
Jacques, grand merci.
Merci, Jacques. Ça va, Jacques?
Toi, bien? Ouais, nickel.
T'es en bas?
Oui, je suis en bas.
Ça va, tranquille. Bon, il fait bon, oui, il fait bon là maintenant.
Oh, ah ouais, là, ouais.
Grand beau sur la plage.
T'es tout nu?
T'as décidé de.
Jacques Moncla.
Embrasse pas le petit Sébastien.
C'est chaud pour parler basket, évidemment. C'est toujours un plaisir. Faire de la radio avec Jacques,
Tu as pris ta retraite, que tu bosses plus du tout, c'est con, Jacques.
Fais la promo pour Bean.
Bean, bien sûr.
Ouais, oui, on est là tous les jours, maintenant 7 sur 7, puisque.
Comment c'est clair. Bref.
Oui, mais enfin, moi, je fais que 4 sur 7.
Voilà, ça 4 sur 7, feignant.
Ouais.
Merci, Jacques.
Ah, quand on voit ce qui s'est passé, hein, Jacques, il est plutôt bon dans cette analyse, Jacques Monclar. Hein.
Ah oui, Jacques.
Il est plutôt pertinent, Jacques.
Fan de Wemby, comme nous tous. Allez, on revient tout de suite. Toulouse, trop fort pour le top 14. Et puis du bowling. La France est championne du monde par équipe. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h. Le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le meilleur du Super Moscato Show sur RMC. Alors, dans une demi-heure, nous avons rendez-vous avec le 15 de France.
Ah, joli
15 de France qui gagne le tournoi, mais qui ne fait pas le grand chelem. On va faire le bilan tout simplement, hein. Vincent règle le problème.
On était resté un peu déçu quand même, un peu frustré à la fin.
Frustré, mais bon, on a gagné le tournoi, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis juste avant ça, il y aura bien sûr le journal moyen, hommage à Roland.
Hommage à Roland Courbis, c'était le 12 janvier cet hommage à Roland.
Plein de moments super sympas de Roland Courbis.
Voilà, ça sera léger parce qu'on pense au coach qui aimait rire et puis il y aura des sons d'archives incroyables qu'on avait retrouvés sur Roland Courbis tout jeune, qui expliquait déjà sa philosophie de vie à l'époque.
Et la philosophie du foot, bien sûr, qu'on connaît par cœur.
Et des jeux.
Mais tout de suite, Toulouse, trop fort pour le top 14, c'était au mois de janvier.
RMC, le Super Moscato Show.
Ils ont emmené l'Amérique sur la Lune.
Ils ont battu tous leurs records de vitesse, de haute intensité, etc.
Ils l'ont fait redescendre sans encombre.
Nous, ça nous impressionne. À quelle vitesse ça nous avance.
Ils ont montré au monde ce dont une équipe est capable.
Mais la question à se poser, c'est pourquoi ces équipes jouent en équipe.
Ce sont les ingénieurs du centre de contrôle de mission de la NASA qui perpétue le rêve de la conquête spatiale.
Ça fait partie de l'histoire, mais on est un chaînon de l'histoire. Je sais pas, je dois être né passeur.
Une chose est sûre, quels que soient les futurs programmes spatiaux américains.
Well, you know from me, c'est ancien de Dios.
But we are so little and small.
Les hommes et les femmes du centre de contrôle de mission.
Dupont, il était
bon, non ?
Stratosphérique.
Ouvriront toujours la marche.
Qui a le plus gros boulard ?
Je serai vraiment apaisé lorsque les gens qui m'ont fait souffrir souffrent à leur tour.
Un tiers vaut mieux que deux. Hugo là.
Breaking news.
T'as vu le tir qu'il m'a donné ? Ouais. Je serai apaisé quand ceux qui m'ont fait souffrir souffrent.
Alors le problème, c'est au pluriel.
C'était dans le lot. Hein. C'était adressé à Bernard en premier, je pense.
En premier à Bernard et à toi en second.
Je pense qu'il a eu un peu sa petite vengeance quand même. Hein,
parce que depuis,
ça rééquilibrait les trucs.
C'est pour ça qu'il reparle à Denis. Donc,
ça n'a jamais été fâché.
Gardons du temps pour parler du Stade Toulousain qui a été impressionnant. Qui a réglé le choc contre Pau samedi en une mi-temps. Score final 59-22 contre la deuxième meilleure équipe de France, donc Toulouse. Est-il trop fort pour le top 14? Le manager de la section paloise, Sébastien Piccheroni, résigné.
L'habitude de regarder le top 14. Tu es pas arrivé aujourd'hui. Bon, t'as remarqué que Toulouse, ça fait plusieurs années qu'il roule sur tout le monde quand il le décide. Pour moi, il y a rien qui a changé, non? Enfin, combien il y a eu en finale il y a 2 ans? Je sais pas. Enfin, non. Non, honnêtement, pour moi, là-dessus, il n'y a rien qui a changé. Il y a Toulouse et les autres. Excusez-moi de vous surprendre, mais. Pour moi, là, il n'y a rien qui a changé.
Voilà. Et à Toulouse et les autres, quand même.
Il est gentil, Piccheroni, mais il faut le dire avant le match, ça.
Bien sûr, parce qu'il vient avec sa meilleure équipe.
Non, tu peux pas dire autre chose quand on a pris 60, quand même.
Si. Non. De faire le.
Non, il n'a pas fait le malin avant, hein.
Ben c'est pour ça que je te dis, il faut le dire avant le match.
Il est venu en toute humilité.
Il est venu avec beaucoup d'ambition. C'est pour ça que
je dis ça. S'il le dit avant, il sort le parapluie en disant on va affronter ce qui se fait au Mans.
Il met sa belle équipe, Denis, mais avant le match, il ne dit pas on va aller gagner au Stade Toulousain. Il est resté très humble.
On va aller gagner au Stade Toulousain. Il met l'ambition.
Moi, je me suis dit écoute-moi, on a fait un match de merde. On s'est fait battre dans tous les compartiments. Parce que tout le monde ne prend pas non plus 60 points.
De plus en plus, contre le Stade Toulousain.
Non, mais je pense que Bordeaux ne prend pas 60 points. Ils peuvent gagner un peu de temps en temps, mais pas gagner deux fois, tout ça. Bon, ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne prend pas 60 points. J'aurais préféré qu'ils disent, il y a pas, comment ils vont s'entraîner, là? Parce qu'il y a le Stade Toulousain, les autres. Donc, ils vont y jouer comme au football, pour la deuxième place, hein, mais tu gagnes pas d'argent en deuxième place au rugby. Ou la troisième place. Je crois pas le foot qui joue la deuxième, troisième place, parce qu'ils rentrent 20, 30, 40 boules s'ils sont en Champions League. Mais bon, eux, ils rentrent deux fifres, que dalle, ils rentrent. Donc, tu joues au rugby pour la deuxième place. Non. Quand t'es Pau, quand t'es Bègles, quand t'es tout ça, tu joues pour être champion. Alors, je comprends, mais au moins, même si c'est la réalité, ce qu'il dit, même si c'est vrai, ne le dis pas, quoi. Ne le dis pas, tu peux pas.
Ça change rien, non?
Ah si, c'est important, psychologiquement, comment tu vas t'entraîner? Je suis coach, je sais pas, je vais de le faire à personne.
Parce que ça,
je dis, on a fait un match de merde, je vais dans ce sens-là, de dire, on n'a pas joué sur notre valeur, l'événement nous a empêchés, on était sous l'émotion, tout ça. Mais si tu dis.
Après, Vincent, il le dit sur cette saison, Toulouse cartonne tout le monde cette saison.
Mais à aucun moment, il est venu à Toulouse pour prendre 59.
Attends, juste une précision, quand tu dis tout le monde prend pas 60, tu veux que je te dise qui en a pris 60 contre Toulouse cette saison?
Oui, mais avec quelle équipe aussi?
Pau, Sail, La Rochelle, les Sharks, Toulon, Bordeaux et Castres.
Quelles sont les équipes?
Les équipes, c'est plutôt celle de Toulouse qu'il faut regarder. C'est que quand ils sortent la grosse équipe, ils mettent 60. Voilà. Quel que soit l'adversaire.
Ce que je veux te dire, c'est que, moi, c'est pas la question. Bien sûr que c'est un bon entraîneur, bien sûr qu'il n'y a pas de souci. Mais ce message-là, Moi, je sais pas comment tu récupères tes mecs. Il y a plus rien à faire, les gars. La Toulouse et les autres.
Mais tu crois pas que les joueurs, ils sont capables de s'en rendre compte tout seuls?
Oui, alors tu peux gagner quoi, un peu la Coupe d'Europe. Si t'as un bon tirage, tu te joues contre les Saracens, qui a que des vieux devant, et qui, y a une tempête.
Non, mais si Pau, ils gagneront pas la Coupe d'Europe, de toute façon.
Ouais. Ouais, bah, non, avec un Toulouse qui se loupe encore une fois
comme l'an dernier. On parle comme ça parce qu'on connaît le résultat et qu'on a vu le match.
Oui, mais normalement,
parce que moi, je vais vous dire, moi, avant le match, je craignais pour Pau, mais en même temps, au fond de moi, j'avais espoir de voir un Pau qui résiste.
Moi aussi.
Et les premières minutes, j'ai vu Pau qui marque un essai, qui était conquérant.
Ah, je dis, ça va le faire.
Je dis, c'est bien, quoi. Il y a moins de la concurrence, au moins, il y a un challenger.
Il y a un challenge, ouais, voilà.
Et puis après, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tu te dis, mais c'est plus pas possible, où ils sont. Parce que la vérité, comme dit Vincent,
Ils se sont sortis.
Demain, ils ont été roulés dessus.
C'est pas possible.
Toulouse a roulé dessus.
Toulouse, ils sont très bons. C'est pas la question. On va pas revenir là-dessus. On va pas
enfoncer les portes ouvertes.
Ils se sont sortis quand même. Oh, devant, j'espère que Piccheroni, il peut, cette équipe peut faire beaucoup mieux quand même, non?
Ils se sont sortis. Ils se sont sortis.
C'est une expression rugby. Ils se sont sortis du milieu.
Ils sont pas allés à la Mayotte.
Ils prennent des essais sur les groupes.
Sincèrement.
Et sur le Mayotte.
Essayez de pas tous parler en même temps. Denis.
Non, mais sincèrement, moi, je m'attendais absolument pas à ce qu'il craque, à ce qu'il soit ridiculisé, parce que c'est le mot. C'est le mot. Tu prends pas 9 essais quand même. Quand t'es seconde du championnat et l'équipe qu'ils ont, tu prends pas 9 essais à Toulouse.
Pas,
même si Toulouse est un grand,
mais non,
une grande équipe.
Pierrot.
Mais quand même,
c'est
au bout du quatrième essai, resserre ta défense, je sais pas, bon sacrifice, parce que le problème, il y a 2-3 temps de jeu, ça s'ouvrait de partout.
Non, mais j'ai rarement vu ça.
Moi,
j'avais bien que Machin côté Teddy Smith, il marque des essais de partout,
Thomas.
Il marque des essais de partout. Je veux bien, il a 32 piges, c'est un joueur excellent en attaque et tout. On va revenir
dessus. Mais comment Colombe marque ses essais à la fin?
Colombe, il marque quand il bouscule tout le monde, il pousse les mecs avec la main. Quand même, plaque.
Mais Denis, comment t'expliques? La Rochelle, il y a quelques semaines.
La Rochelle, c'est pas les mêmes, même.
J'étais au match, Antonio, il marchait.
Non, mais le problème, c'est pas plutôt la concurrence de Toulouse qui est trop faible. Par rapport à Toulouse,
peut-être.
C'est pas ça. Quand tu parles de La Rochelle qui est faible, c'est 60. Pau, qui faisait un début de saison magnifique, qui était dauphin de Toulouse, ils en prennent 60 aussi. Tout le monde en prend. Seil, ils viennent pour éliminer Toulouse de la Champions Cup.
Parce que je pense que psychologiquement, si le stade toulousain vient avec les juniors, ils gagnent. Parce que psychologiquement, dès qu'ils voient du rouge et noir, et voilà, caca culotte, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Est-ce qu'on s'est pas à un moment donné posé des questions sur la concurrence qui vont peut-être pouvoir terrasser c'est les Toulousains, parce que Toulouse, cette génération-là, qui est peut-être la plus belle, mais c'est pas le débat de l'histoire du stade toulousain, a trop gagné que parfois, ils prennent les matchs en haut du guidon, et il y a des accros à droite, à gauche, à l'extérieur, on se dit, tiens, ils sont peut-être fébriles. Mais tu te rends compte que quand il y a des matchs couperés, importants à jouer, où ils mettent la grosse armada, où ils connaissent les enjeux, c'est moot, terminé, personne n'existe.
Tu as raison. C'est pas interdit de perdre, que Pau perde au stade toulousain, qui prennent 30 points. Et c'est pas la question. Prendre 60, mon poulet, avec l'équipe Capo, moi, je crois pas que le petit Lacaya, ça soit une buse. Je pense pas que le pack de Bourbon soit une pompe. Je pense pas que ça soit une pompe. Je pense que tous les mecs devant, ils peuvent faire énormément mieux.
Montoya.
Le problème, Montoya.
Montoya. C'est là où ça fait peur, c'est qu'ils
sont passés à côté. Ils se sont fait marcher dessus, rouler dessus. Ils sont passés complètement à côté, psychologiquement. C'est pour ça que je comprends pas le discours de Piccheroni qui devrait dire, on est passé à côté, on a explosé. C'est pour arrêter de flatter le stade toulousain. Autrement, nous, on arrête, qu'on parle que de badminton, con.
Imagine un instant qu'il se retrouve en demi-finale.
Mais
l'ascendant psychologique de Toulouse, c'est terrible.
Dans des rendez-vous, faut pas les manquer.
Oui, c'est un rendez-vous manqué.
À manquer ce rendez-vous, ça veut pas dire que sur leur qualité, il y a 60 points d'écart, le stade toulousain, je le crois pas.
Non,
moi, je le crois pas.
60 points, mais évidemment que non. Mais là, c'est un rendez-vous manqué.
Oui. La section qui recule quand même beaucoup en mêlée, malgré tout. Traditionnellement, après, ça va mieux cette année quand même.
Ils ont beau nous dire le contraire.
Quand même, saison extraordinaire de la section paloise.
Évidemment.
Bravo à eux. T'es bon au bowling, Pierrot?
Alors, oui, je suis pas mal. Non mais honnêtement, il y a des sports où je suis nul, mais bowling, je suis correct. Pour un amateur, pour un joueur du dimanche, ça va. On peut faire un strike de temps en temps. Les Français sont champions du monde par équipe. Gaëtan Mouvreau.
Le cri du cœur du super Moscato Show.
Notre cri du cœur, c'est Gaëtan Mouvreau, champion du monde de bowling par équipe. Salut Gaëtan.
Bonjour à tous.
Salut Gaëtan.
Salut.
Merci. Donc, l'équipe de France est championne du monde par équipe. Victoire en finale contre la Suède il y a 10 jours à Hong Kong.
Et en plus, le titre par équipe, c'est le plus prestigieux. C'est encore plus prestigieux qu'un titre individuel.
Ouais, c'est le Saint Graal du bowling de gagner en équipe. C'est de partager avec tout le monde et c'est là une cohésion qui gagne. Quoi.
Donc, t'es champion du monde de bowling.
Champion du monde du bowling.
Ouais. Alors, ça fait quoi d'être champion du monde de bowling?
C'est énorme. C'était incroyable. On a vécu un monde de ouf. De partager ça avec la famille, les copains sur place, parce qu'on a une histoire commune. Depuis 15 ans, on est rentré en Pôle France ensemble. Donc, on est des joueurs fédéraux. C'était juste magnifique.
Tu savais qu'il y avait un Pôle France Bowling?
Non, je suis surpris. Non, ouais.
Pôle France Bowling.
Ah ouais, c'est comme l'INSEP.
C'était à Toulouse, malheureusement, il a fermé parce qu'on n'est plus reconnu sport de haut niveau malgré tous nos beaux résultats.
Donc, il y a tous vos efforts.
Qui à Toulouse, ou à Toulouse, ou au minime?
Non, au Crêpes à Toulouse.
Au Crêpes à Toulouse, j'étais bon au Crêpes.
C'est vrai?
Il fabrique que des champions.
Ouais.
c'est vrai, j'allais à la piscine en face, là, tu sais.
Le Nakash.
Comment on appelle? Esposito qui s'entraînait là.
Comment on dit et comment on appelle un joueur de bowling?
On dit un bouleur.
Un bouleur.
Parle-nous du bouleur.
Tu as très bien des bouleurs.
Alors, vous êtes champion en battant la Suède, qui fait partie des grosses nations.
Oui, c'est l'une des meilleures nations mondiales. C'est principalement
les Américains, non?
Les Américains aussi, mais ils ont fait un championnat catastrophique.
Ah ouais, parce que c'est quand même eux qui sont les tournées du bowling.
C'est des joueurs professionnels, comme les Asiatiques, Malaisie, Corée, etc. Mais les Américains, on s'attendait à ce qu'ils fassent un gros championnat et ils sont passés à côté, quoi.
Il y a des pays dans lesquels c'est un sport professionnel.
Oui.
On vit bien.
Ouais, Malaisie, Corée, c'est des joueurs du ministère. Donc c'est des joueurs de l'État. Aux États-Unis, c'est le circuit professionnel. En France, non.
Alors, aux États-Unis,
fonctionnaire du bowling. Même nous, on n'a pas inventé ça.
Aux États-Unis, c'est professionnel. Ils gagnent beaucoup d'argent ou c'est
il y a une grande partie, sponsor. C'est à cause des gains et après c'est les sponsors. Les contrats avec des marques.
T'as tenté l'aventure américaine?
Oui.
À 21 ans, tu pensais que t'allais tout casser finalement?
Je me suis fait casser. Ouais.
C'était dur.
C'était dur.
Pourquoi?
En fait, c'est des mecs qui ont de l'expérience. Ça fait déjà 10-15 ans qu'ils sont sur le circuit pro et ils ont plein de petites malices et ils ont l'habitude d'être bons.
C'est quoi la malice au bowling? Tu vas tomber une boule sur le pied.
J'ai une anecdote. Il y a un joueur pro qui m'a insulté en plein tournoi, quoi. Donc
trash talking.
Il a ça aussi. Il a le droit. C'est la légende du bowling, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais il y a beaucoup d'expérience. On a un sport d'expérience à maturité assez tardive, quand on est les meilleurs à partir de 30 ans, etc. Donc voilà, faut beaucoup.
Tu joues jusqu'à quel âge?
Mes beaux-parents sont champions d'Europe vétérans à plus de 65 ans, ils ont 70 ans.
Mais donc c'est bon, c'est ça.
J'imagine qu'il y a beaucoup de pression, notamment en finale. Est-ce que la main, elle tremble?
Ah oui, la main, elle tremble. Après, on a une grosse prépa mentale aussi. On a un coach mental avec l'équipe de France. Donc, on a beaucoup de gestion mentale avec le prépa mental. Mais c'est comme quand ça commence, quoi. Une fois qu'on a notre boule et qu'on est sur la piste, c'est juste le but de faire tomber des kicks, comme vous, quand vous allez en soirée. Bon, vous y arrivez un peu moins bien, je pense.
C'est intéressant de parler de l'aspect mental par rapport à l'aspect technique, parce que je suppose qu'à votre niveau, tout le monde sait faire un strike, tout le monde sait bien lancer.
Il y a plein de paramètres. Il y a les techniques, le mental. Il faut avoir une bonne technique, bien comprendre ce qui se passe. Beaucoup de paramètres de boule, de ce qui se passe sur la piste. Donc après, il y a le côté mental, gestion de la compétition, gestion des émotions. Quand on fait pas un strike, quand on est content de ce qu'on fait et que on fait n'importe quoi, il faut tout gérer.
Alors raconte-nous la finale. Sur quoi ça se joue, justement? Vous affrontez la Suède. Explique-nous un peu le déroulé et puis quel est le moment décisif?
La finale, en gros, on doit gagner deux parties. Donc on joue un lancer chacun notre tour.
Vous êtes cinq.
On est cinq. Ouais.
Et on doit
gagner, en relais, on doit gagner les deux parties. La première partie, on commence parfaitement, on fait les 7 premiers strikes. Ce qui est très très rare, ce qui est très dur, parce que c'est faire un lancer, faire strike tout de suite, sachant qu'on fait un strike sur deux en moyenne, un peu plus d'un strike sur deux en moyenne. Donc ça veut dire qu'on commence, on met les 7 premiers, et après on gagne la première partie assez facilement, on va dire, et la deuxième partie, le moment clé à l'avant-dernier lancer où, c'était moi sur le coup, j'ai eu la chance de faire, j'ai dû faire strike, et je fais strike, ça fait tourner le match vraiment en notre faveur, et le mec derrière moi, Maxime, fait aussi un strike, et là c'était presque fait, quoi.
Donc t'as eu la responsabilité presque du titre?
Du décalage,
oui et non, parce que faut quand même que les mecs assurent derrière, mais j'ai contribué à mettre les choses bien.
Au bowling, le Graal, c'est 12 strikes, le 300. Est-ce que par équipe, ça a déjà été fait?
Ça a été fait. Les Français l'ont fait en triple. Alors, j'étais pas dans la triplette qu'il a faite, mais les Français l'ont fait en triple au championnat du monde, parce qu'on joue au championnat du monde, on joue individuel, double, triple, équipe de 5. Équipe de 5, c'est le dernier événement. Ils l'ont fait en triple, mais en équipe de 5, c'est pas arrivé comme ça.
Et toi, individuel, jamais. T'as combien de 300 dans ta
carrière? J'en ai 21 en compétition.
En compétition.
En compétition. Et dans 8 pays différents, c'est ça qui est cool.
Est-ce que tu peux décrypter, décrypter, mais décrire, décortiquer le mouvement du lancer de bowling du début jusqu'à la fin. Ouais, pour des novices. Non, mais en termes relativement simples, comment ça se passe? Quels sont les temps du mouvement?
En fait, il faut faire marcher comme dans la rue. Pas marcher, forcément essayer de courir, prendre une petite approche, 4-5 pas, et après accompagner la boule. À l'inverse de la pétanque, la main derrière la boule, et la faire rouler vers l'avant en visant le plus au milieu possible. Pas besoin de tirer fort.
À la pétanque, la lyonnaise, ils font ça.
Oui, la lyonnaise, ils font ça.
C'est toujours la même course d'élan, la même distance?
Ouais, non, alors chacun a sa propre distance d'élan, mais sinon, on fait toujours la même chose.
Comment on met de l'effet?
Alors là, faut de la magie.
Faut le vriller.
Non, c'est très compliqué. Après, l'astuce pour mettre de l'effet rapidement sans jouer au bowling, c'est mettre que deux doigts dans la boule. Donc le majeur et l'annulaire, et la boule va tourner toute seule.
Le pouce, on le met pas.
En débutant, non. Oui. Moi, je joue avec le pouce, mais si vous voulez mettre de l'effet dès demain quand vous allez au bowling, pas besoin de mettre le pouce.
Avec forcément un petit coup de poignet.
Pas forcément. Juste laisser partir la boule, ça va tourner toute seule.
Comme au Bobby, crac.
Ouais. Non. On peut dire comme ça.
Et pourquoi vous avez une espèce de protection
sur Pas tous. C'est en général, c'est plus les femmes qui ont ça. C'est un poignet de moins.
De force.
Pour avoir un peu plus de force, du maintien pour mettre un peu plus d'effet.
OK.
L'entraînement, c'est que de la technique ou il y a un petit peu de physique?
On a un peu de physique. Donc en gros, je vais avoir 3-4 entraînements par semaine, personnellement, bowling, et un entraînement physique. Parce qu'après, j'ai
du corps essentiellement.
En fait, non, c'est gainage, renfo.
La muscu un peu.
Ouais, muscu. En fait, on a un sport assez global quand même. C'est beaucoup de gainage. Après, j'aimerais m'entraîner plus, mais comme je dois bosser à côté.
Et tu peux changer de bras des fois quand t'es fatigué?
Alors moi je peux pas, mais on a un mec en équipe de France, en tant que sportif de haut niveau. Hein, on a un mec qui joue main gauche et main droite.
Aussi bien.
Aussi bien.
Si tu joues de ta mauvaise main, t'es nul. Vraiment nul.
Je vais faire 130-140 points. D'accord. Ce qui est bien quand même.
Oui. Main droite, si on fait un bowling ensemble, tu joues main gauche.
Ou je peux jouer. Non, je jouerai en arrière à la piste et je remettrai la boule entre les jambes.
C'est fait aussi.
Au bowling, il n'y a pas une discipline de freestyle, enfin de trick?
Non. On fait des fois des trick shots un peu pour quand on fait des démos. Mais sinon, non, on n'a pas de discipline spécifique à ça.
C'est quand même un peu cul ton truc. Les tricks, les boules, c'est quand même le bowling.
Les champions du monde de bowling: Valentin Saulnier, Maxime Dubois, Gaëtan Mouvrou, notre invité,
les gars.
Grégory Ruiz et Loïc Collin et Mike Barter.
Dis-moi, il y a des
mixtes. La France est championne du monde.
Mixte.
Vous mixez un peu?
Ouais, ma conjointe est championne d'Europe mixte. Avec ma
famille de bowling.
Ouais.
C'est la plus grande famille de bowling.
C'est la fille de tes beaux-parents.
C'est ça.
Voilà, donc c'est eux qui nous ont
mis au bowling. Ma belle-sœur en équipe de France, ma femme est en équipe de France, multimédiaire européenne, et 20 fois championne de
famille
France.
Famille bowling.
Les repas à table.
Que du bowling.
Et Vincent l'a pas dit, mais Gaëtan écoute le Moscato Show.
Ouais. Ah.
Et combien
tous les jours?
Combien coûte une boule de bowling?
Ça dépend.
Pour vous.
Ça dépend. Au plus bas, on va être dans les 160 euros jusqu'à 300 euros.
Et un ivoire d'éléphant?
Merci beaucoup Gaëtan.
Il nous a invité Gaëtan.
Oui, on y est même pas
allé. On va y aller. On va prendre.
À chaque fois, on nous dit ça et puis on fait jamais rien.
On fait jamais rien, c'est vrai.
Je rappelle que Vincent était censé même faire du hockey sur glace.
Oui.
Mettre un maillot et se prendre des tirs dans la tronche.
Denis Charvet était censé depuis 10 ans nous inviter chez Guy Savoir.
Ah oui, c'est vrai.
Parce qu'on a toujours pas vu. Dans un instant, un peu d'émotion dans les meilleurs moments du Super Moscato Show. On a vécu un moment difficile. La famille RMC, la disparition de Roland Courbis. On va lui rendre hommage dans le journal moyen première édition avec de la rigolade quand même, parce qu'il aimait rire Roland, et avec des sons d'archives assez incroyables.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Le meilleur du Super Moscato Show, si vous nous rejoignez, les 15h45, c'est l'heure du journal moyen première édition, et nous allons rendre hommage à Roland Courbis qui nous a quittés cette année, évidemment, vous le savez.
Oui. Eh oui Vincent, la première édition du journal moyen aujourd'hui sur RMC consacrée à Roland Courbis, l'entraîneur, le joueur et le chanteur Roland. Le journal moyen deuxième édition rendra hommage à Roland, la voix légendaire d'RMC. Vous écoutez RMC, c'est le 2484e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show pour Roland Courbis.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Roland, c'est un mec extra.
C'est extra.
C'est extra, Vincent, la chanson de Léo Ferré. C'est la chanson préférée du coach Courbis, qui m'envoyait souvent des SMS avant les journaux moyens. Rappelle-moi, j'ai une archive pour toi. J'ai une saucisse sur un camarade d'RMC. Aujourd'hui, Roland, les archives, c'est pour toi et tu n'as pas le choix. Le coach a été joueur et très jeune joueur. Il aimait déjà les micros des journalistes. Archive méconnue. Nous sommes le 9 mai 1972. Roland Courbis a 18 ans. Avant la demi-finale de Coupe de France, Olympique de Marseille-Reims. Roland a un look incroyable. Il n'était pas prévu dans l'équipe à la base. Franchement, il est tout maigre, il a les cheveux longs, il ressemble à Bernard-Henri Lévy. C'est incroyable. On le reconnaît à peine, il a 18 ans, et on le reconnaît à peine.
Roland Courbis a 18 ans, faire son entrée dans l'Olympique de Marseille, dans la ligne d'attaque, notamment en demi-finale. Quel effet cela fait-il pour un jeune de 18 ans?
Ça fait un peu peur, mais à choisir, j'aurais préféré choisir... Dans l'entraînement, moi, j'aime plus facile, mais là, je choisis pas. Hein.
Je crois qu'il a pris de l'assurance par la suite, Vincent, Roland Courbis, joueur de foot.
Il avait une coupe de cheveux incroyable.
Il est champion de France en 1982 avec Monaco, on en reparlera. Il est déjà très coquin à l'époque. Téléfoot spécial sur TF1, imaginez Michel Denisot, déjà très connu à l'époque. Le grand Michel Denisot est à Monaco au bord d'une piscine. TF1, les gros moyens avec l'équipe championne de France. Denisot prend l'antenne et vous allez entendre la voix de Roland qui intervient tout de suite, qui prend le micro de Denisot.
L'émission ait lieu et se déroule dans de bonnes conditions. Alors, la plaisanterie.
Ouais. Parce que bon, avec mes camarades, là.
Voilà. Et là, il le pousse dans la piscine avec le micro et le costume. Michel Denisot, le début de Téléfoot. Et c'est saboté par le coquin Roland Courbis et tous ses coéquipiers qui avaient fait une très grande saison au Denis en 1982. Très belle équipe, défenseur central, rugueux, Roland. Roland est devenu très vite, très jeune, un coach extra. Coach Courbis, comme on l'appelle depuis 20 ans sur RMC. Il entraîne Toulon, il aime ses joueurs, il en parle très bien. 1988, téléfoot toujours, il parle de la technique du jeu de tête de son joueur Luigi Alfano, qui fait des têtes pyro avec son nez. Il a un nez à la Pierre Dorian, leçon de jeu de nez du coach à la télé sur son joueur.
Dessus du nez, on a tous... un creux. Et Luigi, lui, ça descend pratiquement tout droit comme un profil grec. Et donc, ça fait quand même peut-être un petit peu plus de centimètres que les autres. D'où ce bruit, comme je vous dis, que ça fait vraiment un schlaf. Je fermerai les yeux, que je saurai avec le bruit si c'est Luigi qui a frappé ou un autre. Il prend le nez, il se le remet en place. Même un jour, j'avais dit, mais ok, c'est pas une nez, c'est une cravate.
Ouais, c'est une cravate qu'on est. Le coach Courbis se permettait parfois des petits extras. Il aimait parier sur tout, sur rien. Roland aimait les paris avec ses amis. Il entraîne Ajaccio en 2002. Il perd en Coupe de France en janvier. Il fait froid face à Sedan. Il avait parié avec ses copains, malgré tout, de placer une phrase en interview après le match. Très bon Roland, très technique dans la vanne. Le journaliste demande s'il va recruter un ou deux joueurs au mercato d'hiver. Les joueurs n'existent pas. Très bon Roland.
Donc il vous manquait ce soir aussi à Laurent Faberne. Qu'est-ce qu'il en est du mercato?
Ben disons que là, on hésite avec Turc Tafan et Bonne, un petit joueur australien. Donc on va un petit peu réfléchir dans la semaine à venir entre Tafan et Bonne.
Voilà. Merci Roland.
Voilà, merci beaucoup Roland.
C'est bon.
Roland était capable de tout. Un jour, il reçoit un coup de téléphone sur un portable, sur un téléphone fixe. Il n'y avait pas encore son téléphone à clapper. Des clubs grecs veulent le recruter. Mais à l'époque, vous savez, il y avait une règle. Il fallait avoir des origines grecques. Un grand-père, par exemple, grec. Vous connaissez Roland, c'est pas de problème. Il raconte ça dans le vestiaire sur RMC Sport.
Et Olympiakos, entre autres Panathinaikos aussi, cherchait des joueurs avec des origines grecques. Donc il y avait Argyrudis, Triantafilos, Vitalis, Onis. Je faisais partie d'une liste. Et quand le gars vient me voir, qui me demande si je suis d'origine grecque, que j'avais compris que c'était un projet sportif.
Ouais.
Oui, parce qu'on a compris. J'avais dit, c'est fort possible. Il me dit, non, parce que, il me dit, sinon, on peut aider à trouver un grand-père. Et j'avais donc, à l'époque, un international uruguayen aussi, qui était dans le même cas que moi.
Et dans le bureau du président de l'Olympiakos à l'époque, sans se démonter, avec son copain uruguayen, ils sont devant le président.
On était ensemble dans le bureau du dirigeant là, et qui vous avait dit bon, il faut quand même vous débrouiller de trouver un petit peu. Donc on va quand même essayer de voir. On a regardé un petit peu la carte de Grèce. Et, du côté de Salonique, là-bas, c'est vrai qu'il y avait l'Uruguayen qui était plein d'humour, qui dit oui,
Ils étaient là-bas, nos deux grands-pères, du côté de Salonique, ils sortaient ensemble, ils jouaient au Blagamon ensemble.
Bagamon,
tout. Bagamon. Et donc, et après, ben bon, il y avait eu un tampon et on avait été d'origine grecque et on avait pu jouer dans le championnat grec. 4 mois après, on était restés tous les deux, 4 mois.
Pendant une saison, coach Courbis, alors le joueur Roland Courbis était grec, saison 73-74. Le coach était un entraîneur devin, magicien. Il était parfois extra pendant les mi-temps des matchs. Entraîneur de l'OM, 22 août 1998, Marseille-Montpellier, mi-temps. C'est la catastrophe, l'OM est mené 4-0 au stade Vélodrome, c'est le chaos. Fin de la mi-temps, le coach revient sur la pelouse. Il rattrape en trottinant le président de Montpellier, Louis Nicolin. Tendez bien l'oreille, il lui dit « Quand je pense qu'on va gagner 5-4. » Réaction de Nicolas.
Ça, c'est des couilles. Hein. Ça, c'est fou. Je le pense.
Ah ouais.
Je le sais. Je le pense, sinon je te le dirai pas
et je ne le ferai pas. Résultat, Marseille s'impose 5-4. C'est devenu un match historique de Ligue 1. Roland Courbis, joueur, entraîneur, flambeur, Roland séducteur. Le coach pour les médias était ce qu'on appelle un bon client, un invité extra. Ce qui n'avait pas échappé à Thierry Ardisson, Roland invité de Tout le monde en parle sur France 2. Question, les fameux questionnaires d'Ardisson. Qu'est-ce que vous avez de plus sexy en vous? Très bon Roland Courbis.
Dernière question, ce que vous avez de plus sexy en vous, Roland?
Ben, premièrement parce que ça m'arrange, les quelques kilos en trop que j'ai.
Vous trouvez ça sexy?
Ben, je l'espère, surtout.
C'est pas fini, c'est pas fini.
Ah, quel phénomène. Alors, de moins sexy, maintenant?
Ben, comme je pense que la première question ouais, m'arrange, les quelques kilos que j'ai en trop.
Très bien, bravo, allez.
Le coach nous a quitté, Roland, avec deux ailes. Roland, il y tenait, comme l'avait dit son papa quand il était petit, avec deux ailes pour voler plus haut. Et le coach s'est envolé sans nous parler de sa passion cachée, que tu connais, Denis. La chanson, nous sommes le 23 juin 2014, c'est la Coupe du Monde au Brésil. Avant un match des Bleus, le coach avait fait un pari sur RMC. C'est rare, hein, il a perdu le pari, c'est très rare quand il perd les paris. Si le Bleu gagne avec 3 buts d'écart, je chanterai sur RMC, chez Jean-Jacques Bourdin, ma chanson préférée. C'est extra, Léo Ferré. Le lendemain, le coach dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Et c'est rare, hein, vraiment. Il a perdu un pari. La musique est prête. C'est extra.
Vous nous disiez, si la France gagne 3-0, marque plus de 3 buts, je chanterai lundi matin.
Non, c'était pas tout à fait comme ça.
Ah,
c'était, bon, que c'était quoi? On m'a demandé ma chanson préférée, j'ai dit c'est extra. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, mais alors tu nous la chantes et tout. Et comme j'ai pas pour habitude de me dégonfler, ben,
eh ben, on y va. La musique est calée. Roland Courbis.
Tu peux y aller.
Une robe de cuir comme un fuseau, coré du chien sans faire exprès. Et dedans comme un matelot, une fille qui tend un air anglais. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent. Cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra.
Roland Courbis, en direct dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Ça a mis un coup d'émotion à tout le monde dans le studio, là, je vois. Hein. Incroyable cette voix, Vincent, quand même. Hein. Vincent n'en a plus de voix. Alors Roland, je le rappelle, on fait tous les jours, le Super Moscato Show dans le studio Roland Courbis d'RMC.
Le studio 5 d'RMC, oui, qui a été baptisé le studio Roland Courbis. Il chantait bien, Roland, quand même.
Ah bah, beaucoup de talent, Roland.
On a découvert ça, c'était assez incroyable.
Allez, dans un instant, les Bleus ratent le grand chelem. Est-ce que c'est grave, docteur? À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.